Aujourd'hui, nous allons parler de la proposition de loi sécurité globale et plus précisément d'un article que nous n'avions pas abordé jusqu'ici. Il s'agit de l'article 25 qui prévoit d'autoriser les forces de l'ordre, y compris en repos, de venir armées au sein des ERP, les établissements recevant du public. Pour en parler avec nous, je reçois Thomas Rimilleux, co-directeur du Jardin Moderne, le centre culturel bien connu que l'on retrouve à l'ouest de Rennes, côté Vilaine. Bonjour Thomas.
Merci, bonjour à toi.
Il y a quelques jours, plusieurs organisations syndicales, dont la Fédélima, auquel le Jardin Moderne fait partie, ont signé un communiqué pour alerter des dangers que peut représenter cet article 25. Alors déjà, pour préciser un peu cet article, je vais le citer. Il prévoit le fait qu'un fonctionnaire de police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale porte son arme hors service dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'Intérieur et ne peut lui être opposé lors d'un accès à un établissement recevant du public. Bon, c'est un peu compliqué à lire, du coup, c'est un article de loi. Il y a une précision à apporter, c'est que depuis 2016, le port d'armes par les forces de l'ordre, il est autorisé hors service, mais dans les établissements recevant du public, vous avez le droit de leur refuser l'accès, du moins jusqu'ici, c'est bien ça?
C'est bien ça, exactement. Donc c'était suite aux attentats donc, de 2015, à l'époque Hollande, où il avait été autorisé pour des forces de l'ordre de venir avec leur arme de service sur des établissements recevant du public, mais un ERP, tout ERP, a un responsable à sa tête, un exploitant d'un ERP, qui est responsable en fait de la sécurité des personnes et des activités dans son lieu. Et donc pour venir armé avec son arme de service, il fait avoir l'autorisation de l'exploitant. Mmh. Ce que cet article dans la proposition de loi exclut de facto. Et l'exploitant de l'ERP ne peut pas opposer la présence de cette personne avec son arme de service.
D'accord. Alors avant de revenir un peu sur le fond du débat sur cet article 25, déjà, histoire, parce que pour les gens qui sont peut-être un peu perdus, qu'est-ce que c'est un ERP ?
Un ERP, donc c'est un établissement recevant du public, un ERP. Et donc c'est en fait c'est tout endroit, tout lieu qui accueille du public, qui est ouvert au public. Donc les salles de spectacle, les salles de théâtre, de concert, de tout équipement culturel par exemple, sont des équipements ERP classés L, avec des lettres. Vous avez plein de lettres, de A jusqu'à je ne sais plus. Mais vous avez les maisons de retraite, vous avez les surfaces commerciales, que ce soit un petit commerce ou une grande surface. Les lieux de culte également sont des ERP, les musées sont des ERP spécifiques, avec à chaque fois dans un ERP des normes qui sont venues encadrer la sûreté de ces établissements, pour assurer la sûreté du public. C'est-à-dire que vous devez faire en sorte que l'établissement réponde aux normes incendie, que la ventilation fonctionne bien, et d'autant plus en temps de Covid par exemple. Et puis vous devez assurer la sûreté des personnes, la sécurité des personnes, c'est-à-dire que il ne faut pas qu'il s'y passe n'importe quoi, qu'il y ait des personnes dangereuses qui rentrent. Vous devez appliquer le plan Vigipirate pour certains ERP. C'est le cas par exemple dans certaines salles de spectacle qui dépassent une certaine jauge. Et donc cette fois-ci là, on nous dit que vous allez avoir des policiers ou des gendarmes qui vont pouvoir venir armés sur un lieu où vous allez avoir des gens qui viennent faire la fête, écouter par exemple de la musique, et avec potentiellement des consommations d'alcool sur le site. Et ces personnes-là ne seront même pas mandatées en mission. Alors on va voir l'arrêté, si malheureusement cette loi est promulguée, ce qui est possible. On verra l'arrêté qui précisera aussi les conditions. Mais ça veut dire que vous avez des fonctionnaires de police qui ne seront même pas en situation de mission. En fait, ils seront en astreinte. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'ils soient payés d'ailleurs pour ça et qu'ils seront rémunérés pour cette... Quelque part, c'est une astreinte. Vous êtes disponible et prêt à faire feu, quoi. Et donc, je pense que c'est un énorme problème de sécurité, justement, et de sûreté des publics. Puisque vous pouvez avoir une arme sur vous et peut-être que vous pourriez, par exemple, vous la faire subtiliser ou elle pourrait tomber. On a déjà vu ça dans des vidéos avec des fonctionnaires de police qui font tomber leur arme à feu par terre sans faire exprès et qui tirent dans la jambe d'une personne. Il est hors de question de voir ça dans un établissement et là, on ne pourra même plus l'opposer. En revanche, par exemple, on pourrait très bien décider, en voyant cette personne, de tout annuler, par exemple. Donc la personne pourra venir et puis il ne se passera rien, elle sera toute seule dans le lieu. C'est une condition par exemple qu'on pourrait poser.
Donc il y a plein de facteurs de risque en fait si une personne rentre armée dans l'établissement, il y a beaucoup de choses. Si on prend l'exemple des jardins modernes, comment ça se passerait? Quels sont les risques que ça peut amener
Comme je vous dis, par exemple une arme elle peut être perdue. Ouais. Il y avait un article dans le Canard Enchaîné il y a plusieurs mois qui recensait les chiffres du ministère constatés par le ministère de l'Intérieur lui-même sur le nombre d'armes égarées par les personnels de police durant leur service ou en dehors de leur service. C'était un chiffre consternant, je n'ai plus ça en tête. Mais voilà, on a également un policier, un officier de police judiciaire la semaine dernière qui a été condamné par un tribunal pour détention de stupéfiants et détention d'armes non déclarées, avec une perquisition de son domicile. Tout cela a été retrouvé, il a été condamné, mais il est toujours en service. Évidemment, il n'y a aucun problème pour cette personne. Donc on a des fonctionnaires qui sont plus ou moins responsables, qui n'auront pas d'ordre de mission précis, et qui pourront venir armés dans un établissement fréquenté par des dizaines, des centaines, voire des milliers de personnes.
Ça soulève beaucoup de questions du coup, mais pour revenir à ce que tu disais, tu parlais d'annuler l'événement. Bah justement, moi, quand je me demandais comment est-ce que ça se déroulerait pour vous. Ça veut dire que les vigiles qui sont chargés de la fouille à l'entrée pourraient potentiellement trouver une arme à feu. La personne présente son badge de police, donc vous êtes obligé de la laisser entrer. Elle, elle est là en tant que client. Et du coup, comment est-ce que ça se passerait? Parce que vous saurez, du coup, l'intégralité de l'établissement sera au courant qu'il y a une personne avec une arme à feu dans l'établissement à se balader, à faire sa vie comme n'importe qui, en fait.
Peut-être pas l'intégralité, mais en tout cas, c'est sûr, les personnes, le personnel de sécurité et puis le responsable de l'exploitation. Donc nous, en l'occurrence, au Jardin Moderne, nous aurons forcément cette information qui nous sera transmise, mais nous ne pourrions pas lui opposer sa présence à cette personne. Par contre, nous, on se dit, bah, dans ces cas-là, on peut aussi décider de tout annuler et de, de dire évacuation du site, il y a un danger. Et puis la personne, eh bah, elle pourra rester, il n'y a pas de souci, mais elle sera toute seule avec son arme.
Parce qu'on imagine que dans une foule compacte où les gens pogotent, où les gens dansent, le fait de toucher une arme à feu qu'on sent sous la ceinture de son voisin, ça peut être extrêmement flippant et lancer un mouvement de foule.
Bien évidemment. Alors, c'était dans un autre temps, vous vous rappelez, mais il y avait des concerts où on était tous assez proches des uns des autres. Ça danse, ça se colle, ça sent la sueur. Et vous avez potentiellement une personne à côté de vous avec une arme à feu et sans ordre de mission précis.
Pardon, allez-y, vas-y.
Non, et puis ce que je voulais dire aussi également, c'est que le député qui est rapporteur de cette loi, donc qui a produit un rapport, ce n'est pas non plus n'importe qui, c'est l'ancien patron du RAID, qui est la brigade d'action, on va dire, musclée de la police nationale. C'est le responsable de l'opération qui, à l'époque, à Saint-Denis, avait mené un assaut contre un appartement des terroristes, justement, des attentats de 2015, où il y avait à peu près 1500 cartouches qui avaient été tirées. Voilà, ça vous résume un peu le genre de personnage qui, depuis, est devenu député lorsque Emmanuel Macron a remporté les élections et les législatives dans la foulée. Et c'est cette personne-là, accompagnée de Christophe Castaner, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui sont cités donc, en tant que rédacteurs de cette proposition de loi.
Si ce cas de figure apparaît, si cette loi est votée, est-ce que du coup l'individu pourrait être servi à boire? J'imagine que c'est une des questions qu'on peut se poser, mais un individu armé, est-ce qu'on lui sert à boire sachant qu'il a une arme à feu sur lui? En cas d'embrouille avec d'autres personnes de la boîte, ce qui peut arriver, ou d'une salle de concert, etc., comment est-ce que les videurs vont intervenir? Ça va aussi changer la façon de faire la sécurité au sein des établissements.
Bien sûr, mais c'est pour ça évidemment qu'on est complètement opposé à tous les exploitants de lieux publics, même pas que le spectacle, contre cette proposition de loi. C'est insensé d'avoir une personne avec une arme. Voilà, et effectivement, comment vous régler un éventuel litige, la personne est censée être en dehors de ses horaires de travail et donc potentiellement peut consommer de l'alcool, effectivement, comme vous le dites, sans parler potentiellement peut-être d'autres choses, je veux même pas le savoir, ça me fait peur rien qu'à cette idée, et donc non, ce n'est pas possible.
Moi, j'ai posé la question tout à l'heure, j'ai appelé le syndicat d'Alliance, le syndicat de police Alliance d'Ille-et-Vilaine, je lui ai demander ce qu'ils pensaient de la loi sécurité globale. Donc, sans surprise, ils soutiennent la loi sécurité globale. Mais je vais demander en particulier pour cet article 25 le fait qu'ils puissent venir avec une arme à feu alors qu'ils sont en repos dans un établissement recevant du public. Et lui, ce qu'il m'a répondu, c'est que sa réaction, c'était que peu de policiers gardaient leur arme de service, que c'était une contrainte. Le fait de « il fait chaud, on doit se dessaper, mais on a une arme à feu, donc il ne faut pas la montrer, il ne faut pas qu'elle soit visible. » Finalement, à qui ça va servir, en fait, ce...
Mais c'est bien ça la question. Effectivement, normalement, dans un pays démocratique et un peu sensé, on ne fait pas des lois à tort et à travers pour répondre, et c'est bien le cas ici, à toutes les revendications salariales d'un syndicat de police. La loi retranscrit telle quelle beaucoup de revendications syndicales d'Alliance, si vous voulez. Il y a quelques articles qui sont des dispositions techniques, effectivement, qui permettent d'ajuster quelque chose. Mais les articles qui font polémique et dont on a parlé de l'article 24, effectivement, pendant longtemps, on a manifesté à l'automne, on manifestera encore. Eh bien non, ça pose un énorme problème.
Cet article 25 ainsi que la proposition de loi ont déjà été étudiés et validés à l'Assemblée nationale. Ça doit prochainement, j'ai pas la date, être étudié par le Sénat. Où est-ce que ça en est aujourd'hui ?
Eh bien, c'est en cours au Sénat. Cela a commencé en début de semaine. Aujourd'hui, c'est la dernière lecture normalement. J'ai l'impression qu'ils ont pris un peu de retard en ayant suivi tout à l'heure un peu l'actualité. Ils en étaient encore à l'article 22. Donc ils n'avaient même pas encore attaqué les articles qui font le plus polémique, puisqu'ils les prennent dans l'ordre. Donc je ne sais pas s'il y aura une prolongation ensuite demain. En tout cas, le gouvernement a décidé d'activer la procédure accélérée pour cette navette parlementaire, donc la Constitution de la République, normalement fait ce qu'on appelle la navette parlementaire entre les deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et puis donc le texte a été présenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, et puis ensuite il est re-examiné donc à l'Assemblée nationale pour une seconde lecture. C'est souvent le chemin classique. Or, le gouvernement peut décider d'appliquer la procédure accélérée, ce qui est le cas. Et donc, si le Sénat valide et ne prend pas en compte les amendements qui ont été déposés par plusieurs sénateurs suite aux nombreux courriers qu'on leur a adressés, eh bien, la loi sera ensuite promulguée par le gouvernement et nous aurons une loi de sécurité globale avec tous ces articles polémiques effectifs. Il y aura des arrêtés, des décrets qui préciseront des choses. Mais hélas, on aura encore franchi un cap dans une sécurisation et de la société. Voilà.
Justement, vous parliez des courriers que vous avez envoyés aux sénateurs. Est-ce que vous avez pu, à travers les organisations syndicales qui vous représentent, discuter avec l'exécutif de cet article de loi ? Quel argument ils ont utilisé justement pour défendre l'article 25 au sein de la proposition de loi Sécurité globale ?
Alors, nous n'avons pas discuté directement avec des membres du gouvernement. Nous avons essentiellement discuté avec les sénateurs. Hein. Justement, on a vraiment activé l'ensemble des sénateurs là-dessus, puisqu'on savait que c'était le dernier passage de lecture au Sénat. Et le gouvernement n'est pas non plus très, très disponible depuis un an sur les différents sujets, y compris pour la réouverture de lieux de spectacle ou donner un cadre clair, vous savez bien. Donc non, nous n'avons pas énormément d'échanges là-dessus. En revanche, on voit bien qu'il s'agit pour eux de protéger les forces de l'ordre, les protéger des atteintes. Mais en revanche, quand ils disent ça, ils ne fournissent pas vraiment de chiffres pour dire quelles ont été les violences commises à l'encontre de forces de l'ordre. Est-ce que leur image a été utilisée ? Ils sont beaucoup moins disserts sur ce sujet, alors que ça va être ancré dans le marbre, dans la loi. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on a ce genre de loi qui se multiplie sur des sujets qui sont bien évidemment des sujets très à droite. Pourquoi ? Parce que le gouvernement n'a que peu faire de sujets, disons, sociétaux de gauche. Il ne va pas s'embêter à essayer de vaincre la gauche, puisqu'elle est globalement assez divisée, et que son ennemi déclaré, et qu'il a encore affirmé il y a peu, eh bien, c'est le Front National. Donc, évidemment, il va se concentrer sur des thèmes de droite comme ceci. Mais le problème, c'est qu'on prépare un arsenal législatif. Mais merveilleux, si jamais par malheur le FN arrive un jour au pouvoir, le Rassemblement National, ils auront tout ce qu'il faut pour faire, mais tout ce qu'ils veulent avec tout l'esprit qu'on leur connaît.
Vous êtes confiant sur la réponse que peuvent apporter les sénateurs là-dessus ? Parce qu'on voit la PMA, par exemple, qui a été chantée par le Sénat dernièrement.
Carrément, oui. On a même, du coup, donc fait le forcing, écrit beaucoup de sénateurs, des sénateurs de gauche qui, évidemment, soutiennent et ont proposé des amendements dans notre sens, mais également des sénateurs, les Républicains de droite, qui sont, du coup, assez divisés sur le sujet. Donc, on attend avec grande impatience l'issue de ces débats.
Petite dernière question avant de vous quitter. Comment est-ce que vous vous sentez pour la réouverture, on ne sait pas quand, on n'a pas encore de date, mais pour les lieux culturels, sachant qu'une potentielle loi article 25 peut tomber, c'est un stress supplémentaire.
J'ai envie de dire, on est un peu au bout là. On est un peu au bout de tout. Effectivement, on a une situation sanitaire qui ne se calme pas. On a donc des représentants politiques au niveau du gouvernement qui sont incapables de donner un cadre clair et une feuille de route claire pour pouvoir envisager une réouverture, pour faire travailler le monde de la culture, du spectacle, un peu en dynamique de projet. C'est-à-dire, ok, vous pourrez rouvrir avec des jauges très dégradées dans très longtemps. Peut-être, moi je m'en fiche, mais donnez-nous au moins un minimum de cadre qu'on puisse ensuite travailler avec des partenaires, des artistes, des techniciens, des prestataires et développer quelque chose, même avec les pires des conditions. Et puis aussi, proposer peut-être un plan de relance ambitieux pour ce secteur-là qui coûte en général pas grand-chose. Et vous pourriez par exemple un peu irriguer l'ensemble du territoire pour financer plein peut-être de municipalités, pour produire dans tout le pays des petits événements avec des compagnies locales de théâtre, des groupes locaux de musique. mais on n'entend pas ce message. On n'a pas de vision en fait politique qui prend en compte la crise et qui donne une perspective à l'ensemble des acteurs du domaine.
Super, bah, on espère en tout cas que ça va rouvrir vite, nous, là, toutes ces salles de spectacle, ces lieux de culture, sans personne de force de l'ordre armée, ce serait aussi bien. Merci beaucoup Thomas, je le rappelle, vous êtes co-directeur des Jardins Modernes à Rennes. Et chers auditeurs et auditrices, on vous tiendra bien sûr au courant des avancées parlementaires de la proposition de loi Sécurité Globale et de ce fameux article 25.
Et nous avons une manifestation, il me semble, prévue samedi à 13h, je crois, Charles de Gaulle à Rennes.
Absolument, la salle de manifestation du 20 mars. Super, merci beaucoup.
Merci.